Ashvini. Je vous remercie, madame. Je voudrais remercier les panélistes, tous ceux qui sont dans la salle, qui ont souligné les questions les plus pertinentes en lien avec la migration. Aujourd'hui, nous devons parler de racisme et de migration, notamment de racisme systémique. On ne peut en traiter de façon isolée, compte tenu de plusieurs lois sur la migration édictées par certains États très puissants. Dans un passé récent, les lois de l'immigration mises en œuvre par certains États puissants, notamment en Europe et d'autres régions du monde, ont eu un impact disproportionné sur les migrants, sur les immigrants, fondés sur la race, la nationalité, l'appartenance ethnique, etc. Voyons en particulier le cadre juridique transfrontière. Il est également important de se centrer sur la façon dont la structure légale, la structure des migrations est analysée et comprise dans le contexte de l'hémisphère sud. Voyez donc l'idée de la migration dans l'hémisphère sud. Ils ne parviennent pas à avoir autant de visibilité que l'hémisphère nord. Il est donc très important de se demander comment les communautés marginalisées dans l'hémisphère sud se situent à l'autre bout dans le contexte du racisme et de la discrimination raciale. Dans le cadre de la migration, il nous faut faire ressortir les liens. Comme je vous le disais, le racisme systémique dans le contexte de la migration ne peut pas être vu de façon dissociée, c'est-à-dire qu'il faut analyser les liens existants entre différentes questions, notamment le discours de haine, la crise climatique, les catastrophes naturelles et beaucoup, beaucoup d'autres questions politiques et sociales qui se sont répercutées de façon disproportionnée sur les personnes d'ascendance africaine et beaucoup de communautés marginalisées sur la planète. Dans le cadre de la migration, je me suis également intéressée, bien sûr, aux personnes d'ascendance africaine et nous voyons comment cette migration a été utilisée pour créer de nouvelles opportunités, de nouvelles voies, mais il faut également voir aussi l'aspect résilience, détermination des communautés africaines, où la migration était utilisée comme un outil pour contrer l'esclavage et le colonialisme, le contester. Je crois qu'il faut le souligner également. En outre, ce qui a été dit par la représentante de la Fédération de Russie à propos de la question des visas, m'amène à dire que, vous savez, moi-même, je suis originaire de l'hémisphère sud, de la région de l'Asie du Sud, et chaque fois, je dois passer par un long processus pour obtenir un visa. Certes, on ne me l'a jamais refusé, mais c'est un processus extrêmement rigoureux pour obtenir un visa, et c'est le cas lorsqu'il s'agit de se rendre dans des pays d'Europe et en Europe. Il est donc absolument urgent que les États membres tiennent compte des normes internationales des droits de l'homme qui ont été établies dans le contexte de la liberté de mouvement, notamment en voyant le CCPR et l'UDDH en ce qui concerne notamment la liberté de mouvement qui doivent être prises en considération, notamment dans le contexte d'engagement d'individus dans le domaine des droits de l'homme. Je voudrais remercier le professeur qui a souligné qu'il était important d'avoir des données ventilées dans le contexte de la migration. Et quant à l'élimination et les mesures à prendre, notamment pour éliminer le racisme dans le contexte de la migration, il faut bien que des mesures soient prises par les États membres et sur lesquelles ils doivent se centrer, notamment dans le contexte de lois constitutionnelles, de lois pénales, mais aussi de lois sur le travail. C'est-à-dire que ces lois doivent s'aligner sur les normes internationales des droits de l'homme et doivent pouvoir répondre aux défis que posent les migrants et les descendants des migrants. De plus, Il y a une forte opinion publique dans le monde vis-à-vis des migrants. Les préjugés, les stéréotypes ont affecté doublement les migrants, notamment quant à la façon dont les médias ont monté en épingle le problème de la migration avec tout le discours construit dans les médias sociaux, et qui doit être vraiment traité avec efficacité. Et surtout, dans le domaine de l'éducation, c'est ce qui a été souligné par la présidente. L'éducation, le programme notamment, établi par différents États dans le monde, voilà quelque chose qui doit amener à faire évoluer rapidement l'opinion publique avec l'engagement de jeunes, d'étudiants. Cette éducation véritable peut faire évoluer l'idée du migrant. Il y a beaucoup d'experts, d'universitaires dans le monde qui considèrent que la migration a un aspect droit de l'homme. Il est donc indispensable d'inscrire la migration dans le cadre des droits de l'homme. Il est absolument impératif pour nous tous, et quand je parle de nous tous, je ne parle pas uniquement des experts, mais les États membres, les groupes de société civile, les différents protagonistes, d'initier une approche intégrée, intersectionnelle pour la mise en œuvre des lois sur l'immigration, de voir ces lois par ce prisme pour tirer au clair une approche inclusive vis-à-vis de la migration. Je pense avoir souligné certains aspects importants soulevés par les membres présents dans la salle. Encore une fois, je vous remercie de votre attention.